Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Duval, Steve, Cynthia et Fatih. La team Afro et leurs invités vous ouvrent les portes du week-end sur Mon Paris FM.
Mon Afro Paris, c'est maintenant, maintenant.
Bienvenue dans Mon Afro Paris, l'émission qui fait battre le cœur de la culture afro en Île-de-France et au-delà. Aujourd'hui, on vous embarque dans un voyage entre Paris et Abidjan, entre livres, musique et énergie contagieuse. Il sera question de mots, de voix et de récits avec nos deux invités du jour. D'abord, Stéphane Zabahi, spécialiste en communication et auteur du livre « Naviguer avec succès dans le monde du networking ». Bonsoir Stéphane.
Bonsoir, bonsoir à tous.
J'ai une petite question pour toi tout de suite, une petite interrogation. Dans un monde où tout passe par les relations, comment construire un réseau sans trahir son authenticité ?
Très belle question. Je pense que c'est un état d'esprit. On le fait très souvent networker, oui. Sauf que là, on arrive à mettre un nom sur ce qu'on a l'habitude de faire. Et pour répondre à ta question, je dirais simplement que c'est développer son réseau, c'est accéder à des opportunités, c'est d'abord construire un branding et pouvoir permettre à certaines personnes de pouvoir avoir confiance en nous. Et je pense que c'est partager des valeurs, simplement.
C'est lancé là. Ça promet, hein. On en parle tout à l'heure, Stéphane, merci pour cette réponse. Ensuite, nous accueillons Lise Kiendou, plume incontournable des lettres africaines et véritable passeuse de culture. Bonsoir, Lise.
Bonsoir, merci pour l'accueil.
J'en ai une bonne pour toi aussi. Hein.
Ah.
T'allais pas y échapper. Alors, selon toi, quelle place la littérature africaine occupe-t-elle aujourd'hui dans les imaginaires francophones ?
Alors, aujourd'hui, la littérature africaine, elle ne peut plus être ignorée ou elle ne peut plus être mise sous le boisseau. Donc, elle a tout à fait sa place et elle apporte beaucoup à la littérature d'une manière générale. Donc, la voix de l'Afrique aujourd'hui, elle compte, elle compte, elle compte beaucoup.
Et vous comptez pour nous dans cette émission, hein, chers invités. C'est aussi ça, le cadre de mon Afro Paris. Alors, c'est bon d'avoir cette réponse. On aura le temps de développer tout ceci tout de suite avec toi dans pas longtemps. Mes compagnons ne m'ont pas abandonné ce soir. Enfin, presque. Notre passionné Steve nous proposera son coup de cœur de la semaine, une immersion dans l'univers d'un artiste qu'il aime et qu'il veut nous faire découvrir. Salut Steve.
Bonsoir Duval et bonsoir à nos invités, bonsoir aux éditeurs.
Bonsoir. Ce soir encore une grosse pointure, hein, je pense.
J'espère que ça va vous plaire, ouais.
Ça me plaît déjà, t'inquiète.
Parfait alors.
Et vous la connaissez, impossible de faire l'émission sans son rire et sa bonne humeur. Fatih sera avec nous pour pimenter nos échanges. Bonsoir Fatih.
Bonsoir à tous. Toujours excellemment présenté, j'aime tellement.
Ah ouais ?
Je veux que tu recommences.
T'as pas dit ça il y a quelques semaines.
Je veux que tu recommences.
Pourquoi tu me présentes comme ça ? Ça fait plaisir de vous retrouver ensemble comme ça tous les vendredis soirs pour partager la culture afro et recevoir des invités de marque et c'est très très bien. Restez bien avec nous dans mon Afro Paris, c'est maintenant et on commence très fort. Dans nos échanges riches et passionnants, on va prendre un instant de communion musicale, de vibration universelle car il y a déjà 44 ans que cette légende nous a quittés. Oui, depuis le 11 mai 1981, son énergie a disparu des scènes. Mais ses mots, sa voix, son esprit, eux, n'ont jamais cessé de résonner. Son message de paix, d'unité et de lutte contre l'oppression reste plus que jamais d'actualité. Alors, en prélude à ses 44 ans de commémoration, voici Bob Marley pour commencer cette émission. A tout de suite.
Mon Afro Paris, votre émission afro sur Mon Paris FM.
Crying. One love. Hear the children crying.
Afro sur Mon Paris FM.
Et bien voilà, on va retrouver le coup de cœur de Steve tout de suite et maintenant.
Steve vous emmène dans son univers musical. Laissez-vous entraîner dans sa playlist. Le coup de cœur de Steve.
Ce soir, cher Duval, lumière sur une voix puissante et une carrière en or massif. Lady C, véritable perle de la soul et du R&B contemporain. Née Lady C. Anibad Young à la Nouvelle-Orléans, cette chanteuse américaine n'a pas seulement une voix, elle a une présence. Une présence qu'elle forge dès l'enfance. Baignée dans la musique entre le jazz de sa maman chanteuse et les harmonies classiques apprises au conservatoire, Lady C. n'est pas une étoile née sous les projecteurs, non. Son parcours, elle l'a taillé à la force du talent et de la persévérance. D'abord indépendante, elle autoproduit son premier album Soul Singer en 2000, après avoir été refusée par plusieurs maisons de disques. Et c'est justement cette indépendance artistique qui lui donne une couleur unique. C'est en 2007 avec l'album Lost and Found qu'elle perce enfin auprès du grand public. Sa voix, tantôt douce, tantôt puissante, rappelle les grandes dames de la soul comme Aretha Franklin ou Chaka Khan, tout en apportant une touche résolument moderne. Depuis, Lady C, c'est plus de 10 albums, plusieurs nominations aux Grammy Awards et enfin une récompense en 2021 dans la catégorie Meilleure Performance R&B pour Anything For You. Une reconnaissance plus que méritée pour cette chanteuse à la fois à la voix d'or et au cœur engagé. Car oui, Lady C chante l'amour, la douleur, la reconstruction, mais aussi la fierté noire. La résilience et le pouvoir d'être soi. Au-delà de la musique, Lady C est aussi actrice, auteuse et productrice. Elle incarne Nina Simone sur scène. Elle écrit des livres pour inspirer les femmes et continue de faire rayonner la soul avec une classe rare. Tout de suite, messieurs, dames, un extrait du dernier album qui s'appelle The Crown et qui est sorti il y a une semaine et le titre Making a Way. Alors, enjoy les amis! Thank you.
Mon Afro Paris, votre émission afro sur Mon Paris FM.
Waouh, waouh Steve. Franchement, c'est ce qui m'a fait voyager dans l'univers musical de cette grande voix. Quelle trajectoire. Lydici, c'est, tu l'as dit, hein, c'est bien plus qu'une voix, c'est une présence, une force, une femme qui a su transformer chaque épreuve en énergie créative. Hein. J'ai fait quelques recherches sur elle et je me suis rendu compte que c'était pas n'importe qui vraiment. De ses débuts indépendants à la reconnaissance internationale, en passant par ses prises de position pour l'identité noire et l'expression artistique libre, elle incarne cette génération d'artistes afro qui ne transige ni sur leur art, ni sur leur valeur. En revanche, et franchement, ça donne envie de réécouter toute sa discographie et c'est ce que j'ai fait toute cette semaine. Merci Steve pour ce coup de cœur.
Bah, que tu aies apprécié, je suis vraiment très très très
satisfait. Ah mais il n'y a pas que lui. Hein.
Ainsi que Fatih et nos invités ici au plateau. Tout le monde a validé le choix de Lydici. Donc effectivement, artiste, si on ne la connaît pas déjà, à découvrir absolument.
Voilà. C'est très très bien, c'est très très cool. Alors les invités, je veux dire Lydici et Stéphane, vous écoutez ce genre de musique? Est-ce que c'est un univers musical qui vous parle à vous deux?
Eh bien, moi, je laisse mon corps répondre. Dès que le son, enfin, pendant que le son y passait, ben, mon corps, il était en communion, j'ai envie de dire.
En fait, donc, toi, tu ne te fixes pas sur un rythme,
voilà.
Tu as une âme artistique.
Exactement. Moi, je n'ai pas de préférence en particulier. Tout ce qui est beau me plaît. Donc, voilà.
Et toi, Stéphane?
Ouais, moi, je pense que c'est un très beau coup de cœur. Et je pense que j'aime beaucoup la cause qu'elle défend. Hein. Elle est vraiment, on va dire... On serait en France, on dirait panafricaniste ou afro. Elle défend la cause des Noirs et je pense que c'est important quand on se retrouve en fait dans l'univers afro, enfin afro ou afro-américain.
Oui.
Et je pense que c'est agréable à écouter parce que la musique, c'est l'art d'écouter les sons de manière agréable. Et je pense que franchement, c'est pour les personnes qui ne connaissaient pas, allez-y la découvrir.
C'est une belle découverte. Hein, et merci beaucoup, Steve. D'ailleurs, maintenant, on a parlé avec Stéphane. Les auditeurs ont entendu la voix de Lys. Mais qui est Lys, dis-moi?
Alors, à moi la lourde responsabilité de présenter notre invité du soir qui a un parcours énorme. Vraiment, non mais vraiment, voilà, je tiens à le dire avant de la présenter. Donc, alors, Lys est née à Brazzaville en 1976.
Tout à fait.
Pardon de donner l'âge du coup, mais...
Ah ben moi je suis fière de mon âge, hein, je le prends avec
bien, très
fierté.
Bien. Donc Lys s'impose comme une figure incontournable de la littérature africaine contemporaine. Écrivaine, critique littéraire, conférencière et enseignante. Elle conjugue avec finesse création, transmission et réflexion. Son œuvre est riche et plurielle et traverse les genres. Donc roman, mais pas que ça, bien sûr. Nouvelle, poésie, littérature jeunesse et essai. Chaque publication est une invitation à découvrir les subtilités de l'âme africaine et les entrelacements culturels du monde francophone.
Très joli.
Diplômée en lettres modernes, titulaire d'un doctorat soutenu en 2022 sur la poétique des fleuves d'Afrique dans les littératures de langue française, elle est également enseignante dans le secondaire.
Tout à fait.
Et active dans le monde associatif via Afrique sur Loire, qu'elle a fondée pour créer un pont culturel entre l'Afrique et la France. Blogueuse, passionnée et conférencière écoutée, elle donne la parole aux livres et à ceux qui les portent. Elle a participé à de nombreux événements littéraires prestigieux, comme le Salon du Livre de Paris, Sciences Po ou encore les Rencontres de la Diversité. Elle anime également des émissions de table ronde autour de la littérature africaine et de la condition féminine dans les lettres. Sa bibliographie reflète son engagement pour la reconnaissance des voix africaines et la diversité culturelle. Lys Kindou, c'est l'Afrique qui écrit, qui enseigne et qui questionne et bâtit des ponts entre les rives de la mémoire et celle de l'avenir. Bravo à vous et bienvenue. Merci.
En tout cas, merci pour cette présentation qui me met un petit peu, comment dire, sous les feux de la rampe. Mais bon, on essaye à notre niveau de faire entendre la voix de l'Afrique et de faire entendre ou de faire découvrir toutes les pépites, tout ce qui se fait actuellement en littérature, mais pas que les arts d'une manière générale, mais la littérature. Tout à l'heure, j'étais interrogée sur la place des littératures. Eh bien, il y a tellement de choses qui se publient aujourd'hui, de belles choses qu'on n'arrive même plus à suivre. Quoi. Moi, je suis du genre aujourd'hui à acheter rapidement des livres, mais pour les lire, donc, j'ai ma pile qui ne cesse de prendre de la hauteur. Et parce que voilà, on découvre régulièrement de nouvelles plumes, de nouveaux auteurs, et ils méritent tous d'être mis en lumière. Parce que malheureusement, c'est important. Aujourd'hui, on peut avoir publié un livre, mais si on ne fait pas d'écho autour de cette publication, eh bien, comment voulez-vous que les lecteurs viennent à ce livre ? Donc, c'est important d'avoir des acteurs.
Et ce travail-là va mourir.
Exactement. Enfin, ce travail va rester dans l'ombre, ce qui serait dommage, quoi. C'est comme se priver d'un bon plat. Donc, voilà.
Lisse.
On fait des découvertes tous les jours. Et... Oui.
Rassure-toi, on sait que tu n'es pas du tout lisse. Tu es à la fois actrice, autrice, critique littéraire, conférencière et enseignante. Comment, justement, ces différentes casquettes nourrissent-elles ton rapport à la littérature ?
Eh bien, j'ai envie de dire, voilà, j'essaie d'être moi. Un individu, c'est quoi ? C'est un individu, enfin, comment dire ? Je laisse parler toute... je suis une personne qui goûte à beaucoup de choses et qui ne veut pas de restrictions. Donc, être une femme épanouie. Tout à l'heure, lorsque vous avez présenté cette lady de la musique, donc Lady C, donc j'ai beaucoup apprécié la présentation. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention, c'est le pouvoir d'être soi. Donc être soi, c'est aussi apprendre à se découvrir. Et comment est-ce qu'on se découvre ? C'est en testant,
Commence pas avec être soi, parce que quand tu parles d'être soi, tu es en train d'attaquer Stéphane qui va rentrer dedans et on va plus s'en sortir.
Donc non, mais moi j'aime bien essayer, ça me fait, ça me fait me sentir bien, ça me nourrit, j'aime écrire, j'aime lire, j'aime partager, j'aime échanger avec le public, donc voilà, si je peux faire tout ça régulièrement chaque jour, eh ben voilà, je me sens femme complète.
D'accord. C'est très beau ce que tu dis.
Oui.
Moi, je vais te poser des questions plus par rapport à tes ouvrages, notamment, je pense à Moanana, la petite fille qui parlait aux animaux. Oui. Vous l'aurez entendu, tes titres interpellent. Tes titres interpellent et peuvent donc être l'objet de bien des interprétations. Tu n'as pas peur que l'on mette... tes ouvrages dans une catégorie de... ou qu'on te mette toi-même dans une catégorie de personnes qui sont les personnes qui veillent toujours à ressortir ce côté mystique de l'Afrique.
Moi, j'aime pas... En fait, je vais pas faire des choix en fonction de ce que les autres vont penser ou le regard qu'ils vont apporter. Moi, je suis mon inspiration.
Peut-être qu'elle assume de sortir ce côté mystique de l'Afrique qui est quelque chose de...
De tabou.
C'est pas une légende, c'est pas un tabou.
C'est pas un tabou, mais ça dépend. C'est délicat.
Moi, je mène mon projet et puis après... On voit quel accueil le public réserve à cette œuvre. Mais moi, dès le départ, je ne vais pas commencer à me mettre des barricades ou des murs parce que telle personne ou bien le public pourrait penser ceci ou cela de moi. Si vous voulez que je raconte un petit peu la jeunesse de ces ouvrages de jeunesse, c'est que voilà, je suis maman de 4 enfants et lorsque j'avais mes petits, enfin ils étaient tout jeunes encore, ils me demandaient souvent de leur, où j'avais ce, je ne vais pas dire ce rituel, mais cette habitude de leur lire des histoires le soir. Et puis je me suis dit plutôt que de leur lire des ouvrages, des œuvres. Voilà, on peut leur lire des œuvres écrites par d'autres, mais ça m'a donné aussi envie, moi-même, de créer une œuvre, voilà, et qui, vous aurez remarqué, même toutes mes œuvres, elles sont chacun des livres jeunesse est dédicacé à un de mes enfants en particulier. Donc, le titre « Moanana, la petite fille qui parlait aux animaux », ça m'est venu naturellement parce que l'héroïne ou le personnage principal, c'est Moanana. Et c'est un mélange entre « Moana » qui, en langue congolaise, veut dire « enfant ». Et puis, l'un des enfants auxquels le livre s'adresse en particulier s'appelle Anaël. Donc, ça faisait un mélange entre Moana et Anaël. Et puis, j'ai voulu un personnage qui est au contact de la nature, qui écoute parce que que la nature nous parle. C'est vrai que quand on dit la petite fille qui parlait aux animaux, alors vous vous interprétez ou bien vous vous dites, bah tiens, il y a ce côté aussi mystique, etc. L'Afrique, est-ce qu'on ne va pas vous mettre dans cette case? Alors que pour moi, ce n'est pas simplement l'Afrique. Aujourd'hui,
aller,
le monde se
au-delà,
perd.
Il faut aller au-delà des clichés.
Exactement. Le monde se perd parce qu'on n'écoute plus le monde, enfin la nature autour de nous. L'être humain sera soi-même lorsqu'il sera vraiment en communion avec la nature qui est sa maison, qui l'accueille et qui
c'est tellement, c'est dont tellement
il faut
bien
prendre
dit.
Soin.
Et tout à l'heure, tu parlais justement du fait de mettre en lumière des œuvres qui méritent de l'être. On le sait, hein, ton engagement pour la littérature africaine, il est constant cet engagement. Mais qu'est-ce qui t'anime dans la transmission de ces œuvres parfois méconnues du grand public?
Mais parce que moi-même, je ressens... Enfin, il y a des œuvres que moi-même, j'ai découvertes à travers d'autres. Et je dis, en fait, c'est un peu... Je pense que c'est naturel. C'est pas simple. C'est pas de la générosité, mais c'est tout naturel. Que quand on a... C'est un peu comme... lorsque vous êtes à table, vous profitez d'un plat qui est exquis. Mais je pense que vous ressentez encore plus de plaisir si ce plaisir de la table, il est partagé. Donc, lorsqu'on a découvert une belle œuvre et on estime que cette œuvre, elle pourra rendre heureux d'autres personnes, on ne se prive pas d'en parler autour de soi. En fait, c'est naturel. C'est un peu comme là, ce soir, on nous a fait découvrir les DC. Moi, je ne connaissais pas. Et on voit avec quel, pas simplement engagement, mais avec quel plaisir il a eu. Il nous a parlé de cet artiste. Donc, et tous autour de la table,
envie.
Vous avez dit voilà, que pendant toute la semaine, vous n'avez écouté que les DC. Et avec, voilà, pour moi, c'est l'art, c'est le partage.
Heureusement, dans tes œuvres, tu ne parles pas que le côté mystique qui entoure justement les mythes en Afrique. Dans tes essais, tu interroges souvent l'image de la femme dans la littérature africaine. Penses-tu que cette image a évolué ces dernières années?
Il y a du cheminement qui a été fait, mais on a encore le parcours est encore il est long. C'est vrai que en tant que femme, je ne suis pas insensible, mais forcément, enfin d'une manière ou d'une autre, c'est un sujet qui m'interpelle, dont je parle régulièrement depuis mes premières œuvres, mes premiers recueils de nouvelles. Souvent, la femme a souvent eu une place particulière aussi bien dans mes œuvres que dans mes recherches.
Lise, moi, quand je t'écoute parler, j'ai envie d'être ton élève. J'ai envie de... Ouais. Alors justement, tu enseignes les lettres modernes.
Oui.
Que transmets-tu à tes élèves au-delà du programme scolaire?
Alors, au-delà du programme, il y a déjà leur transmettre ce désir de lire parce qu'il se perd. Et quand j'ai... donc en début d'année, c'est toujours une sorte de challenge ou de défi parce qu'il y en a... tout de suite qui me fait comprendre que la lecture et eux, Madame Kindou, vous allez avoir du mal. Hein. Les livres, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Et donc moi, je me donne comme défi vers la fin de l'année de les réconcilier un petit peu, plus ou moins, avec la lecture. Donc quand j'ai des élèves à un moment donné qui me disent « mais grâce à vous, on commence à aimer le français » ou bien « tenez, vous n'avez pas d'autres livres à nous proposer du genre de tel... œuvre que vous nous avez proposée, eh bien pour moi, je trouve que j'ai accompli un pas et un pas important.
Lise, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne véritablement de tes ouvrages?
Eh bien ça dépend de la personnalité de chacun. Enfin, je ne sais pas si je peux répondre à cette question, mais lorsque je tombe sur un lecteur ou un retour de lecture qui rejoint un petit peu, en fait, lorsque les lecteurs me donnent l'impression d'avoir compris ce que je voulais dire, où je voulais aller.
C'est là où je veux en venir.
Et là, je me dis, des fois, on se dit même, mais il a su vraiment exactement exprimer ce que je ressentais, alors que peut-être que soi-même, on... Voilà,
en fait, toi, tu laisses le libre arbitre au lecteur.
Exactement. Tout à fait.
D'accord.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça.
C'est malin.
C'est malin. Écoutez, avant de poursuivre cette belle émission, chers auditeurs, faisons une pause musicale avec l'une des voix les plus puissantes et singulières de la scène afro-contemporaine. Elle vient du Nigeria, elle a conquis le monde avec sa vibe soul et son écriture profonde. Elle revient avec un morceau aussi sensible qu'intense. Voici Boy Oh Boy de Tams, une balade qui mêle douceur, force et émotion brute. Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles. Mon Afro Paris vous emmène là où la musique touche l'âme. À tout à l'heure.
Mon Afro Paris, votre émission afro sur Mon Paris FM.
You're a pain in my brain. I might stay up a little longer. You're killing me, babe. I'm not playing. You done dead to rubbish, you always do. I wonder how I'd love to think like you. Cause I'm not really for you. No, I'm not really for you. You raise my blood pressure, my headaches, my chest aches, my heart breaks. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh you, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Sometimes I want to strangle you, but I have to sit and look. I just have to look. Sometimes I wanna choke you out and maybe even brush you up. I just have to sit and look, sit and look at you. Hold me in your mind, this is the last time we will see. Hold me in your mind, there's nothing left of you and me. Hold me in your mind before I leave you on the street. Hold me in your mind. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh you.
Afro Paris, c'est votre rendez-vous africain tous les vendredis soirs sur Mon Parquet FM.
Comme je le disais, cette chanteuse, elle fait partie des chanteurs qui chantent avec tellement de facilité que tu as l'impression que tu peux faire comme eux.
C'était beau, hein.
C'est tellement beau, cette chanson. Voilà, il n'y a pas que justement, il n'y a pas que Lys dans cette émission. Il y a aussi Stéphane qui est là et Fatih. Qui est Stéphane ?
Je vais me faire un plaisir de te présenter, Stéphane. J'ai beaucoup aimé ton parcours. Bon. Avant de trop en dire, autant dire. Du coup, au départ, il est journaliste. Puis il obtient un MBA qui lui permettra le poste de consultant en stratégie de communication et marketing. Parce que passionné par l'innovation, le numérique et la communication, il veut être à la pointe de la meilleure stratégie. Tout cela dans le seul but de pouvoir concourir au développement des projets d'autrui. Stéphane t'empruntera alors le chemin de l'écriture et tu rendras compte d'un ouvrage, Naviguer avec succès dans le monde du networking. Ouvrage dans lequel tu transmettras l'art et les règles du réseautage. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Stéphane.
Alors, bienvenue dans cette émission.
Merci.
C'est ça. Alors, explique-nous un peu ce qu'est le networking, Stéphane.
Comme je le disais, le networking, c'est avant tout un état d'esprit. C'est partager des valeurs. Et je pense qu'on vit en société, on a l'ère du numérique, du digital. Et je pense que le networking, on a l'habitude de le faire. Sauf que là, on met un nom sur ce qu'on a l'habitude de faire. Développer son réseau, c'est avant tout permettre à chacun d'accéder à des opportunités, de pouvoir construire en fait une ligne éditoriale. Donc quand on revient dans le domaine du journalisme, c'est vraiment partager des valeurs et accéder à des opportunités avant tout.
Alors, en fait, j'ai envie de te demander pourquoi avoir choisi le networking comme sujet central de ton livre ? Qu'est-ce qui t'a personnellement mené à cette réflexion ?
Aujourd'hui, je pense que le networking est la cheville ouvrière de tout. Pour accéder à des opportunités, que ce soit dans le monde professionnel, dans la vie personnelle, on est en contact avec des personnes. Et je pense que la relation de confiance qui doit exister détermine beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on est à l'école, quand on sort de l'école, en général, on va contacter des amis, on va contacter des proches pour demander ou rechercher de l'emploi. Et je pense que la naissance même du networking vient déjà tout petit, hein, où on connaît énormément des personnes, mais on ne sait pas quoi en faire en fait, du réseau qu'on a. Et c'est là que le networking intervient, parce qu'il faut montrer aussi sa valeur pour accéder à des opportunités.
D'accord. Selon toi, à quel âge devrait-on commencer la quête du réseau, le networking ?
C'est une très belle question. Le networking commence déjà par l'éducation. Vous voyez, aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes parents, mais le networking commence là où les parents éduquent leurs enfants. Je veux dire, le networking, lorsque vous êtes parents, vous allez mettre vos enfants dans des écoles de bonnes écoles, ce qui va permettre aussi à ces enfants de développer leur réseau, que ce soit par les parents, les amis, les connaissances, etc. Et l'enfant grandit avec. Mais je veux dire, quand on est adulte, le networking commence ou adolescent à l'école, sur les bancs, où on côtoie des professeurs et le professeur d'une matière peut permettre aussi de pouvoir accéder à des opportunités. Mais c'est un partage de valeurs, comme je dis, en fait. Il faut être soi-même authentique et démontrer qu'on est capable d'eux pour qu'on soit propulsé par la suite.
D'accord. Tu as parlé de grandes écoles. Tout le monde n'a pas la chance d'accéder aux grandes écoles. Donc, pour les personnes qui sont plus modestes et qui n'ont pas la possibilité d'accéder à ces grandes écoles-là, selon toi, est-ce qu'il y a possibilité pour eux aussi de networker ? Je sais pas.
Tout à fait. Je parlais pas que de grandes écoles, je parlais d'écoles, de bonnes écoles, ou même peu importe l'environnement où on se trouve détermine beaucoup de choses.
C'est l'environnement.
Donc l'environnement exactement. Donc on peut être dans une école moyenne ou quoi, tout dépend du qualificatif qu'on apporte, et pouvoir côtoyer déjà des gens, montrer aussi de la valeur. Parce qu'il faut savoir que le networking, c'est un partage de valeurs. Si vous démontrez qui vous êtes par rapport à vos compétences, obligatoirement vous allez accéder à des opportunités, mais il faut pousser le pas en fait avant de pouvoir accéder à des opportunités. Je pense que peu importe le contexte, on peut apporter de la valeur.
Et du coup, ton livre, il est le plus utile pour qui ? Pour les étudiants, pour les entrepreneurs, les cadres ou les demandeurs d'emploi ?
Ben pour tout le monde. Ouais. Pour tout le monde. C'est intéressant la question que vous posez. Exactement, pour tout le monde. Parce que quand on soit chômeur, d'ailleurs, c'est un livre indispensable pour les chômeurs, pour les personnes qui n'ont pas fait de longues études. Je pense que dans ce livre, il y a quelques tips qui vont vous permettre aussi de pouvoir aborder des gens. Parce que tu peux avoir des diplômes, être diplômé, tu ne sais pas aborder des gens. Donc je donne des tips.
Et dis-moi, ton livre, il propose des exercices pratiques ou des mises en situation ? Comment ça se passe ?
Des cas pratiques, exactement. Donc si vous voulez, il y a des chapitres en fait, qui vont vous permettre de pouvoir comprendre le networking. Okay. Et par la suite, à la fin du bouquin, il y a des exercices qui vont vous permettre de vous améliorer, de vous appliquer, de pouvoir suivre aussi.
Stéphane, il faut qu'il l'achète, les gens, ce livre.
Oui, hein, bien sûr.
Ah, il donne envie, hein.
Bah oui.
Tu parles de créer des connexions authentiques à l'ère des réseaux sociaux et du personal branding. Comment rester vrai sans tomber dans le marketing de façade ?
C'est l'authenticité. Je pense qu'on a tous de la valeur à partager. Ça va être un sourire, ça va être la bienveillance, ça va être l'éducation, ça va être en fait la qualité qu'on a. Et je pense qu'il faut être authentique. Et pour vous donner un exemple vite fait, je pense que l'authenticité vient de qui on est. Il faut savoir qui on est. Qu'est-ce qu'on peut apporter aux uns ? Ça va être, par exemple, la belle dame en face de moi avec le sourire. Avec un sourire, on arrive à illuminer beaucoup de choses. Donc, derrière...
Ça y est, tu as eu Fatih, là.
Et je pense qu'on a tous de la valeur à partager.
C'est pas ça, Stéphane, tu viens de l'avoir, la Fatih.
On a tous de la valeur à partager. Et je pense qu'il faut d'abord puiser dans le moi intérieur de ce qu'on est capable de faire. Et par la suite, il y aura des déclinaisons, mais il faut toujours apporter de la valeur.
Alors, Stéphane, moi, je t'ai dit, ton livre, il me donne envie. Mais j'ai encore quelques questions, quelque chose qui m'interpelle. Approuves-tu le fait que certaines personnes aillent jusqu'à s'humilier pour obtenir un réseau ?
Qu'est-ce qu'on appelle humiliation ?
C'est intéressant. ça diffère selon les personnes, mais je veux dire...
Poser des actions qui ne sont pas dignes d'elles, de vrai.
Exactement. Ou il y a perte de dignité.
Non, je pense que, de toute façon, quand on développe un réseau, je parlais de valeur. Il faut apporter de la valeur ajoutée. Parce que tout le monde a de la valeur, qu'est-ce que tu apportes concrètement ? Et je pense que peu importe par rapport aux opportunités auxquelles tu accèdes, lorsqu'on voit ton talent et qu'on voit ta progression, raison pour laquelle je parlais de personal branding, on voit ce que tu fais, on suit ce que tu fais, tu démontres ce que tu fais, tu apportes de la valeur. La valeur, c'est un plus par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et je pense que tu accèdes à ces opportunités normalement parce que tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu as envie de faire. Il n'y a pas de raison.
Je veux dire, tu as répondu à l'une de mes prochaines questions, mais je veux revenir un peu sur cette question. En fait, quand j'entends plus par... j'ai envie de parler de personnes qui vont jusqu'à perdre leur dignité.
Qui piétinent leur valeur.
Exactement.
Pour avoir...
C'est plus du networking. C'est plus du networking.
Ah, donc pour toi, il y a des limites.
Mais en toute chose, il y a des limites.
D'accord.
Dans la vie, donc même dans le networking, et même c'est un conseil que je donne de manière générale, et je dis que ce soit la personne qui veut développer son réseau, il y a des limites à tout. Et lorsque tu ne sens pas une personne ou tu ne sens pas quelque chose, ne le fais pas.
D'accord.
Ne le fais pas clairement. Parce que le networking, moi, je peux aller dans un événement où je décide, il y a 10 000 personnes et je parle qu'à 2 personnes, 3 personnes. Le plus important n'est pas de parler à tout le monde, mais de sélectionner les personnes à qui on parle par rapport à des valeurs. Qu'est-ce que la personne peut t'apporter en termes de valeurs ?
Et ce n'est pas parce que tu as un réseau déjà que tu te permets de faire ces choses-là ?
Pas du tout, parce que pour en arriver à là, fallait que je sois pragmatique en fait dans mes choix et aussi dans ma carrière. Parce que de toute façon, c'est un principe de vie. Quand on a des principes, on accède à des opportunités et je pense qu'on a une certaine rigueur qui nous permet de nous maintenir. Parce que bon, tu peux développer ton réseau au bout de 2 ans, il ne sert à rien. Donc en fait, c'est comment se maintenir en fait sur la durée. Pour cela, il faut savoir imposer des valeurs et même être rigoureux.
Alors, tu l'as dit, hein, dans ton parcours, il y a forcément, tu parles de réseau, il y a forcément une rencontre décisive, un déclic relationnel qui a changé ta trajectoire professionnelle. C'était quoi ?
Il y en a eu tellement. Parce que vous savez, moi, je suis multipotentiel, je suis un homme de médias, dans la communication, dans le marketing. On rencontre énormément de personnes et justement, c'est là que la thématique du livre est intéressante parce que, vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde où on côtoie énormément de personnes, que tu sois connu ou pas. Mais qu'est-ce que tu en fais de ce réseau, de ces contacts ? Le networking, ce n'est pas avoir un carnet d'adresses bien garni. Pas du tout. Comment tu entretiens ton réseau ? Et moi, en général, je suis pas... Il y a la loi du donner, du recevoir. Je sais ce que j'apporte à mon réseau. Je vous prends un exemple simple. Je me suis retrouvé à un événement et il y avait 2 personnes qui échangeaient. Donc, qui parlaient de contact, prise de contact, etc. Et moi, j'étais là, tout, à côté du buffet. Et j'écoutais. Sauf que l'autre avait le téléphone qui n'avait plus de carte de visite. Par la suite, il ne savait pas comment donner son contact et l'autre lui a dit bah, « Ok, on se voit plus tard à l'événement ». J'ai approché cette personne, je lui ai dit « Vous savez, il est important d'avoir un QR code par exemple ». Donc le mec peut scanner directement et puis accéder à toutes vos informations, vos sites internet. Il a dit « C'est intéressant ». Et je lui crée en fait le QR code sur place. Il apprécie. Qu'est-ce qu'il fait ? On échange les contacts et il me dit « Mais c'est intéressant, vous êtes dans le digital, je connais une fondation qui pourrait vous accompagner en tout cas dans tout ce que vous faites. » Et c'était la fondation Renault. Et par la suite, lorsque j'intègre la fondation Renault, par exemple, il y a un accompagnement de 10 000 euros. Donc ça veut dire que j'ai apporté de la valeur avant que cette personne aussi m'apporte en retour de la valeur sans le savoir.
Oui.
Donc ça, le networking fonctionne comme ça.
Il y a quelque chose d'intéressant chez vous deux. Je vois Alice qui te regarde et qui se sent emportée par ce que tu dis. C'est sûr que vous avez forcément des choses en commun. Alors, l'un vient de la littérature académique, l'autre de la communication et du marketing. Pourtant, vous partagez un intérêt pour l'impact du langage. Quel pouvoir attribuez-vous aux mots dans vos pratiques respectives, Alice ?
Eh bien, les mots. Mais c'est la base, je pense, de la communication. Et comment dire ? Les mots, il faut les apprivoiser parfois. Ils sont comme des animaux sauvages. Il faut les apprivoiser, il faut les sculpter. Et voilà, c'est aussi un art, hein, la communication. Là, je vois mon camarade. on sent qu'il est vraiment dans son bain. Et
c'est pas
voilà,
une formation, c'est un journaliste de base. Du
plaisir.
Coup, toi, les mots, quelle importance tu apportes aux mots dans le networking ?
C'est une belle question. Pour moi, les mots ont un sens. Et je pense que c'est important de savoir ce qu'on dit, parce que ce qu'on dit, parfois, peut déclencher beaucoup de choses. Donc, c'est pareil, hein, pour que ce soit pour des coachs, pour des écrivains, pour des auteurs, pour des journalistes, pour des chroniqueurs, il faut savoir poser les mots. Et je pense que quand on sait poser les mots, on arrive facilement à se faire comprendre et se faire entendre.
D'ailleurs, je reste sur le même lancé pour vous deux. Une question pareille pour vous deux. Vos engagements. Hein. Afrique sur Loire pour Lys et les conseils en images et en communication pour Stéphane, pour toi du coup, montrent une volonté de transformation sociale. Quel est selon vous le rôle de l'auteur ou du communicant dans la société d'aujourd'hui ?
Eh bien, moi, je dirais que les auteurs, ils peuvent aider un petit peu à huiler les rouages qui peuvent être aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup de frictions parfois lorsqu'on a plusieurs individus ou plusieurs peuples ou plusieurs communautés en présence. Ça peut créer des tensions, etc.
Oui.
Là où, alors qu'il n'y a pas de raison que ces tensions-là existent. Donc, l'auteur, heureusement qu'il est là pour pouvoir rappeler les choses, pour pouvoir retracer un petit peu l'histoire, rappeler d'où l'on vient et puis montrer les multiples chemins qu'on peut emprunter pour pouvoir se retrouver tous ensemble parce que voilà, tous les humains, nous sommes une société. En fait, on peut faire, nous sommes multiples, mais nous sommes un. Et ça, c'est, on l'oublie souvent. On aime plutôt s'opposer les uns aux autres. Et le discours des auteurs aujourd'hui, à travers leurs œuvres, qui nous émeuvent, qui mettent en scène des personnages, qui nous touchent et qui nous... c'est-à-dire qu'il y a des fois... Enfin, moi, ça m'arrive hein, quand je lis un livre et quand je sens le personnage se diriger vers le ravin ou bien je sens que les choses vont péricliter. On aimerait tellement entrer dans le livre, par exemple, et faire en sorte que le personnage prenne une autre trajectoire. Donc, ça nous... ça nous met en situation lorsque nous sommes confrontés à ces mêmes ces mêmes cas de figure dans la vraie vie, de pouvoir faire des choix différents. Donc,
tout à fait.
Voilà.
Donc,
exactement. Je rejoins. D'abord, il faut savoir que l'auteur est d'abord impacté par les faits de société, par ce qu'il vit, et il transmet aussi justement ce qu'il vit. Et tout dépend du genre littéraire, par exemple. Hein. Une personne qui va raconter, enfin, un poète est différent de celui qui va parler d'un livre sur le business ou un développement personnel. Mais de manière générale, l'auteur transmet des valeurs. Parce que l'auteur a vécu une certaine expérience qu'il veut transmettre, en fait. Et je pense que c'est important aussi de comprendre que l'auteur n'est pas un donneur de bonnes leçons. Il partage juste des valeurs où il ouvre un débat pour que tout le monde puisse échanger afin de pouvoir apprendre
sur son regard.
Exactement. Et je pense que dans une société, c'est important de partager ses valeurs et de pouvoir échanger sur plusieurs thématiques. Le plus important n'est pas d'être d'accord, c'est de pouvoir partager des arguments et de pouvoir avancer chacun de son côté.
Avoir un espace d'échange.
Oui, je suis totalement d'accord avec toi.
Tout ça est très bien dit, ouais. Une question pour Lise, tu as animé des tables rondes sur l'écriture féminine. Quel constat, justement, en retiens-tu ?
Eh bien, je dirais que les femmes, enfin, la petite expérience que j'ai m'a permis de m'apercevoir à quel point aujourd'hui les femmes, elles savent où elles veulent aller et elles ne sont plus... on va dire complexe. Alors, est-ce que c'était un complexe ? Si vous voulez, pendant longtemps, la place a été occupée. Enfin, si vous voulez, ce sont les plumes masculines ou bien les auteurs, les écrivains. Donc
ouais,
les hommes
Anthony
qui étaient
et Steve,
en avant.
Ils ont tout occupé. Voilà. Les femmes, ils étaient là, ils attendaient. Oui.
Et puis, il fallait que la femme se batte pour se faire, entre guillemets, une place. Et puis, depuis quelques dizaines d'années, non, on a vraiment de belles voix féminines qui n'ont pas, voilà, qui n'ont plus à se battre, mais elles sont là. Et puis aujourd'hui, donc autant aussi bien les hommes que les femmes, ben, elles participent à la création littéraire. Et je trouve que voilà, il y a des femmes vraiment qui inspire tellement le respect,
comme vous.
Le respect, oui. L'admiration.
Elle ne se met pas dedans.
Moi, non, mais moi, je fais découvrir. Enfin, je me vois d'abord comme une personne qui va
transmettre,
qui va faire découvrir.
Non, mais là, on est tous devenus tes élèves là ce soir.
On est,
c'est vrai ou pas ?
Pas du tout. Clairement,
clairement. Stéphane aussi, hein.
Oui, je pense qu'elle inspire.
On va faire un break tout à l'heure, mais avant, là, en ce moment, il se tient à Abidjan le salon du livre international. Toi, en tant qu'autrice et une personne qui en valeur justement tous ces auteurs qui font des choses incroyables. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce genre d'événement ?
Eh bien, moi, je trouve que je suis vraiment, je dis chapeau, bravo, parce que pendant longtemps, si vous voulez, le centre de la vie artistique, si je parle en particulier de la littérature, bah, c'était Paris. Donc, c'était le centre, la lumière vient de là. Et aujourd'hui, en Afrique, il y a des événements, de grands événements qui sont organisés, qui n'ont rien à envier aux autres événements. Voilà, pendant, si je reviens un petit peu en arrière, il y a par exemple, je ne sais pas moi, si je prends même 15 ans, il y a 20 ans, eh ben, c'était le Salon du Livre de Paris, c'était l'événement littéraire principal. Et aujourd'hui, on a le SILA, ça fait quelques années, donc ce n'est pas... une édition seulement, mais on est à plusieurs éditions.
Tout à fait.
Et même en parlant de Paris, c'est vrai que bon, on est toujours en Île-de-France, mais si vous voulez, les personnes originaires d'Afrique aussi se prennent la casquette de acteurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut organiser, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que les littératures africaines, elles brillent, pour qu'elles touchent un public le plus large possible. Donc super. Ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Il ne faut pas attendre que les choses se fassent, mais on peut soi-même être acteur. Plus nous sommes d'acteurs et d'actrices sur la place, et plus notre littérature, elle va rayonner et elle va toucher un public très large.
Wow. Bon, voilà. Pour la petite histoire, il y a Stéphane, tu voulais rajouter.
Et je rejoins totalement ce qu'elle dit. Hein, et moi, j'ai un mantra, ouais. L'action est la voie vers la réalisation. Et je pense que c'est important de soutenir les gens qui essaient de montrer aussi de la valeur et des gens qui essaient de diriger, on va dire, en guillemets. C'est important parce qu'on a tous besoin de se connecter entre nous. Et je pense qu'à travers un livre, à travers un bouquin, mm-hmm. on se connecte et on apprend énormément de mm-hmm. choses.
Je pense qu'il y a une connexion qui est née entre vous deux. Là.
Ah oui, non, mais ça c'est clair. Un réseau, là, qui nous a fait un livre.
Ça. Alors pour la petite histoire, il y a Cynthia qui est habituée justement notre envoyée spéciale pour cet événement-là. Voilà, on va faire un break. Voilà, c'est passionnant. C'est vraiment très passionnant ces débats et ces échanges. C'est magique. Allez, on monte l'énergie d'un écran avec un son qui fait bouger toute l'Afrique et la diaspora en ce moment. Voilà, c'est Axel Méril, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'humoriste devenu hitmaker. Hein. Il s'associe avec les rois du Obragada, les Toufan. Ça donne une collaboration explosive entre vibe festive, refrain accrocheur et bonne humeur contagieuse. Ce morceau, c'est une vraie concentrée, un vrai concentré d'ambiance made in Togo Bénin. Voici Bagba, c'est le titre de la chanson. A tout de suite.
Le Bénin, c'est comment? Spara style, on s'enjaille entre nous dans le jeu. Un jeu, dangereux. Axel, trop d'excès, t'as le son, ajoute du sel. Axel, accélère, t'as le son, donc ajoute du sel.
Sans bateau comme Arafat, et si tu m'aimes pas, faut te fâcher. Tu risques de faire un AVC, mais tu vas pas ressusciter. Si tu t'as pas donné, si tu te fasses un anomalie.
Suivez Mon Afro Paris sur Mon Paris FM.
Et nous sommes toujours en direct sur Mon Paris FM dans Mon Afro Paris. Très heureux de savoir que vous êtes à notre écoute. Hein. C'est le début du week-end. On ouvre les portes comme ça, avec une grosse ambiance afro, avec des invités qui nous apportent des choses intéressantes. On parle de livres, on parle de connexion. Et d'ailleurs, justement, parlons de connexion. Stéphane, j'ai une question pour toi. Ton approche sur les réseautages pourrait-elle bénéficier d'une réflexion sur plus littéraire ou poétique à l'image de ce que propose Liz Kindou dans ses conférences sur la langue et la littérature?
Oui, c'est une belle question. Le networking, comme je le disais, c'est un état d'esprit. Hein. Faut vraiment être authentique. Qu'on soit passionné de tel art ou que ça soit par la poésie, par la littérature, etc., le problème ou la question, c'est qu'est-ce que tu apportes ? Peu importe ce par quoi tu es passionné, il faut d'abord proposer quelque chose dans le networking. Donc, j'ai pris l'exemple, hein. Je pense qu'elle a une question. Vas-y.
Ah non, je te laisse terminer.
Ah d'accord. Je pense qu'il est important de proposer de la valeur dans un premier temps. Donc, peu importe qu'on soit passionné par la littérature, par la poésie, tout dépend de la valeur qu'on apporte.
Et là, je peux te poser ma question. J'ai vu que tu t'étais rendu en Côte d'Ivoire pour une masterclass. Dirais-tu que la méthode pour se constituer un réseau diffère selon les pays ?
Exactement. Parce que, à titre d'exemple, les mentalités diffèrent en fonction des pays et les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Le networking dans les pays anglophones diffère, par exemple, du networking dans les pays francophones. Et je pense que c'est une question d'étude de marché et en fonction des objectifs et des besoins des uns. Mais ça reste que le networking est un partage de valeurs. Donc, les approches diffèrent en fonction des pays, tout simplement.
D'accord.
Et Stéphane, comment ton expérience dans les médias, elle influence ta vision du networking ?
C'est une très, très belle question.
Déjà dans sa capacité de prise de parole.
Oui. Je pense.
C'est une belle question, oui. Dans un premier temps, il est important de pouvoir cerner. Il faut avoir le sens du relationnel. Et ça se travaille. Ça se travaille. Le networking, de toute façon, c'est en le pratiquant qu'on devient excellent. Il faut l'avoir fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et après on se sent à l'aise.
C'est comme tout.
Il faut savoir se présenter. Donc le personal branding, c'est aussi quelle valeur tu apportes. Aujourd'hui, quand on fait une introspection, tu dois être en mesure de savoir à quel besoin tu réponds dans la vie par rapport à une mission ou par rapport à tes talents ou par rapport à tes dons ou par rapport à tes fonctions. Et je pense que c'est à partir de là, tu peux avoir une certaine confiance pour aborder les gens, te présenter, présenter un projet par exemple. Et ouais. Le networking naît.
En parlant de confiance justement, quel conseil donnerais-tu aux personnes introverties qui souhaitent se lancer dans le networking ?
C'est une belle question également. En fait, j'en parle dans le livre, je ne sais pas s'il est... j'en fait, parle dans le livre.
Stéphane,
yes.
Steve, il profite pour se faire coacher par toi.
Oui. Je me renseigne.
Ce qu'il dit est super pertinent. Parce que moi, je connais des gens qui m'ont dit, mais bon, le networking, c'est pas mon truc. Moi, j'aime pas parler aux gens. C'est, les gens prennent les gens de haut, etc. J'ai dit, mais c'est bien. Parce que justement, j'en parle, il y a trois types de personnalités. Il y a des introvertis, il y a des extravertis et il y a des ambivertis. Il y a des personnes, les introvertis en général, ils ont une valeur, ils ont une capacité de fou, par exemple les introvertis. C'est des personnes qui écoutent, qui ne parlent pas, mais qui écoutent. Et une personne qui écoute, en fait, retient tout et cette personne peut poser des questions pertinentes.
Et elle a ce recul-là.
Donc,
déjà.
L'introverti a une valeur de fou. L'extraverti, celui-là qui est à l'aise, qui parle à tout le monde, etc.
Vas-y, après, parle de moi.
Voilà, tu vois. L'extraverti parle de lui et il dégage quelque chose déjà, ce qui peut accrocher. Et les ambivertis, c'est des gens qui s'adaptent en fonction du milieu où ils se trouvent. Et je pense que tout le monde est gagnant dans le combo.
Pourquoi tu me regardes quand
oui,
tu dis ça ?
J'arrive à cerner les gens.
J'ai rien fait, moi, en plus de ça.
Moi, alors.
J'arrive à cerner. Je pense que vous êtes introverti, mais une fausse introverti.
Ah, oui, je suis d'accord. Ah, oui.
Bon, mais oui. Ouais, une fois introverti. Oui,
parce que l'éloquence et tout. Enfin,
Stéphane, oui. Là, tu nous vends bien la chose. On a tout de suite envie d'aller acheter ton livre. Mm. Mais il y a bien des problèmes liés au système du réseautage. Quels sont les problèmes majeurs liés au système du réseautage ?
Les limites du système.
Exactement. En général, les gens. Moi, j'ai parlé de la loi du donner et du recevoir. En fait, les gens veulent tout de suite attendre. Des autres, ils ne veulent pas donner, ils ne veulent pas partager.
Ouais, peut-être qu'ils n'ont pas à donner. Moi,
si, on a tous de la valeur. Alors ça, justement, je ne suis pas d'accord. Oui. Je disais un sourire, c'est une valeur. Même savoir se présenter, c'est une valeur.
Mais il faut le savoir, ça.
Il faut faire une introspection. Tu vois, de manière générale, même dans la vie, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ton cadre de vie ou par rapport à ce qui te correspond, tu es forcément passionné par quelque chose. Et donc, ça va être, par exemple, si tu es passionné par le dessin, tu vas parler de dessin à quelqu'un que tu connais. Et je prenais, à titre d'exemple, je me suis retrouvé à un événement où je disais carrément, il y a une personne qui me dit, ouais, mais j'ai vu telle personnalité, mais j'arrive pas à approcher parce qu'il y a du monde et tout. Et moi, quand il y a du monde, j'arrive pas à parler. Ah. Je dis, mais c'est tellement simple. Tu savais que cette personne allait être à l'événement. Donc, essaie d'aller regarder l'interview de la personne, par exemple, et tout, soit une phrase. Et je pense que tu retiendras l'attention de la personne. Ça va être une blague, ça va être une phrase, etc. Et parfois, il y a des stratégies, justement, justement, j'en parle dans le livre. Mais le networking, je pense qu'il faut y aller et puis il faut partager des valeurs. On a tous de la valeur.
Il y a un truc sur lequel je suis d'accord avec toi, ne dis pas tout sur le livre parce que finalement, Steve
tu peux économiser de l'argent.
Ils ne vont pas chercher le livre, il faut éviter de faire ça. Il faut les pousser à aller chercher. Et j'ai une question à te poser, du coup, si tu devais résumer ta philosophie du networking en une seule phrase, ce serait quoi?
Le networking, c'est un partage de valeurs. Il faut être authentique pour partager de la valeur. Et je pense que à force de pratiquer le networking, on arrive à développer son réseau. Il ne faut juste pas avoir d'appréhension sur les personnes. Il faut vivre son expérience. Et même le nom est une expérience. Et je pense que quand on reçoit un nom, ça nous permet aussi de pouvoir rebondir par la suite. Et la vie même est une sorte d'expérience qui va nous permettre de pouvoir atteindre nos objectifs. Il faut tenter, il faut oser, parce que l'action est la voie vers la réalisation.
Je ne peux pas ne pas te poser cette question parce que tu es dans l'émission Afro par excellence de mon Paris FM. Tu es aussi communicant et entrepreneur. Quelle place accordes-tu à la culture afro dans tes projets et dans ta manière de réseauter?
La culture afro...
Il a réfléchi deux minutes.
Hein. Oui, tu sais pourquoi je...
Ça m'interpelle.
Oui, non, c'est une bonne réflexion. Je pense qu'on a cette qualité et quand j'écrivais le livre, je me suis dit, moi je baigne entre plusieurs communautés, je me suis dit, la communauté afro a vraiment besoin d'élargir son réseau. C'est de la stratégie. Qu'on soit directeur d'entreprise, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a des personnes afro qui sont juristes, artistes, etc. Et c'est dommage de voir que dans notre cercle, on a des personnes qu'on connaît, mais qu'on ne développe pas un business ensemble. Moi, je connais des juristes, je connais des avocats, je connais des personnes qui travaillent dans des ministères, etc. Mais qu'est-ce que j'en fais? Et en général, en tant qu'afro, on devrait se poser la question de se dire, mais écoute, moi, je suis journaliste, tu es actrice, tu es auteur, tu travailles dans les finances. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer un business, pour accéder à des opportunités?
Mais parce qu'on semble, il faut du temps pour ça.
Il faut du temps, mais il faut commencer par quelque chose.
Du coup, qu'est-ce que t'en fais?
De mon réseau ou de manière générale? Il faut parler aux gens. Il faut parler aux gens. Il faut savoir se présenter. Aujourd'hui, moi, je me retrouve, que ce soit dans un after work ou peu importe, je me présente. Je dis, écoutez, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Faites de là, le networking naît. Et c'est important parce que si on ne sait pas ce que tu fais, on ne pourra pas te propulser, on ne pourra
Stéphane,
pas te recommander.
T'aurais pas dû dire ça. Steve, il va aller
son portable, il est blindé, son portable. Steve, il n'y a plus de place dans ton téléphone.
Je peux vous raconter une anecdote rapidement.
Steve, il va aller en discothèque, il va aller voir le DJ. Hey, salut, ça va le DJ? Moi, c'est Steve. Toi, tu fais quoi? Comment tu t'appelles? Il va parler à tous les gars de la soirée.
Il faut, et moi je dis, si vous me permettez, il faut montrer ce qu'on fait par exemple. Et tout. Moi, je vais vous donner une anecdote. J'étais en Côte d'Ivoire au mois de janvier.
C'est pour ça qu'on t'avait pas reçu à ce moment-là, on t'attendait.
Et il y a Drogba qui m'a reçu.
Oui.
Il m'a reçu.
Didier, on peut faire une pause, attendez.
Didier t'a reçu. Ouais, quand même.
Tu vois, est-ce qu'il est marrant?
Attends, tu vas trop vite là.
Attends,
tu vas trop vite.
Tu mets l'accélérateur là où il ne faut pas mettre l'accélérateur.
Ok, d'accord.
Drogba est venu, point. Attends, on digère ça d'abord.
Alors, je suis parti à Abidjan.
L'ivoirienne est là.
Et le Babadé, le Drogba, t'a reçu dans son palace.
Exactement.
Ok. Développe.
C'est parti. Je veux dire, c'est important de montrer ce qu'on fait parce que, qu'on soit personnalité ou pas, les gens nous observent. Que ce soit sur les réseaux ou de manière générale dans les événements, les gens nous observent. Et lorsque je l'ai rencontré, déjà pour le rencontrer, il a fallu qu'il regarde ce que je fais. Mmh. Et lorsqu'on s'est rencontré, qu'il lisait le livre, par exemple, il avait son téléphone en main et il checkait en fait mon compte Instagram ou mes réseaux en fait. Parce que tu ne souhaites pas associer ton image à n'importe qui. Oui. Parce que tu as bâti une image, en fait.
Oui, c'est ta vitrine, le réseau social
vitrine,
aujourd'hui.
Tu vois. Et aujourd'hui, sans te connaître, on voit ce que tu fais. Et moi, je dis, hein, vu que je suis dans la communication, que tu aies 10 likes, que tu aies 100 abonnés, il y a des personnes qui observent sans pourtant s'abonner.
Le nombre d'abonnés augmente.
Exactement. Et demain, quand tu as 500 000 abonnés, tu vois des tonnes de messages. Mais avant ça, il y a des personnes qui t'observent. Moi, je me retrouve dans des événements parfois, on me dit j'aime bien ce que tu fais. Moi, je vois le visage, mais je ne sens pas que cette personne est abonnée à moi.
Mais est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu de réseaux sociaux à ce moment-là, quand Drogba t'a reçu, eh ben, l'entretien aurait été différent.
C'est un mix. C'est un mix parce que quand tu participes à des événements, tu rencontres des personnes et tu te présentes. Donc, il y a tel qui connaît tel, qui connaît tel, et tu sais que tel connaît tel. Tu dis, bah, écoute, moi, je fais ça, je vais rencontrer telle personne. Et tu es professionnel, en fait. Moi, je dis aux gens, ce qui nous manque parfois, c'est le professionnalisme. Les gens savent pas parler aux gens. Les gens savent pas se présenter. Moi, quand je me présente, je t'envoie un dossier de presse.
Tu vois, ça t'apprend.
Je t'envoie quelques paragraphes de moi, de ce que j'ai réalisé ou des liens, peu importe. Ça va être sur un site internet ou sur YouTube, sur Google,
et
sur
Instagram. Et tout ça à l'oral.
Oui, non, mais je veux dire, quand j'ai ton contact, je t'envoie mes liens, voilà ce que je fais pour que je puisse checker. Mais à l'oral, je veux dire, il y a un travail qui se fait où il faut savoir se présenter peut-être en 30 secondes ou en 45 secondes, en allant à l'essentiel.
Je suis complètement d'accord avec toi, Lys. Je reviens à toi tout de suite pour te dire, penses-tu que voilà, le networking tel que décrit par Stéphane pourrait être utile pour les écrivains, souvent vus comme des solitaires ?
Alors, c'est vrai que, voilà, je l'ai dit précédemment, un livre... c'est difficile qu'il puisse faire son chemin tout seul. Donc, il y a forcément besoin. Ça aide d'avoir un réseau. Et moi, je m'aperçois, par exemple, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ben, ça facilite énormément la communication. Quand je prends l'exemple des... Enfin, parce que beaucoup d'œuvres, une majorité d'œuvres littéraires sont publiées, on va dire, sur le continent européen, alors qu'on aimerait qu'il y ait davantage de lecteurs aussi, par exemple, en Afrique. Mais comment est-ce qu'ils vont être au courant de l'actualité littéraire aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, voilà, on est au moins dans l'instant T, on découvre les auteurs, on découvre les œuvres. Après, le souhait, c'est que les œuvres aussi arrivent sur le continent, qu'elles soient lues. Donc, il y a ce problème-là. Mais c'est vrai que les réseaux, aujourd'hui, ça facilite beaucoup les choses. Il faut forcément faire un tout petit peu de communication. Moi, pendant longtemps, j'ai fait de la résistance. Enfin, j'ai fait de la résistance, si vous voulez. Pendant longtemps, je n'animais que les blogs.
J'ai une question pour ça, hein, tu vas me dire. J'ai une question pour ça, parce que dans tes essais, tu abordes le métissage, les identités hybrides. Tu abordes ce genre de questions-là. Oui. Penses-tu que des stratégies de personal branding comme développé par le livre de Stéphane sont-elles compatibles avec la complexité identitaire que tu défends, toi ?
Eh ben, enfin, moi, je dirais que... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas une question de choix pour moi. Naturellement, aujourd'hui, tous les citoyens du monde aujourd'hui, pour moi, ils baignent dans le métissage. Après, il y en a qui vont se dire, ah ben non, moi je suis... Enfin, il y en a qui aiment bien l'expression de souche, etc. Moi, je suis, par exemple, français de souche, etc. Ou bien, moi, je suis tel... Si je prends l'exemple d'ivoirienne 100%, ou bien... Mais peu importe nos origines, on est forcément d'une manière ou d'une autre dans le métissage, dans le lien avec les autres, dans le partage. Enfin, on se nourrit de ce qu'on... Enfin, on est soi et
de ce qui nous entoure.
Voilà, on s'enrichit aussi des autres. Donc,
On se construit, on est ce qu'on est, et après on se construit avec tout ce qu'on...
Exactement. Avec tous les déterminismes. Ça me fait penser à Spinoza.
Oui, Stéphane, voilà. Tu voulais rajouter
En fait, je pense que tu viens de résumer. On se construit en fait par la culture des uns des autres. Et le networking, il est pareil. Hein. Je pense que si on s'arrête sur des préjugés, on n'apprend rien. Et une personne qui pense qu'il sait tout, il n'apprend rien des uns et des autres. Parce que je pense que c'est ensemble qu'on arrive à avoir les points de vue des uns et des autres. Et on s'enrichit aussi de ça parce que c'est une forme de connaissance.
Ton ouvrage s'adresse aussi bien aux pros qu'aux étudiants et aux artistes émergents aussi.
Exactement.
Quelles sont, selon toi, les premières erreurs à éviter quand on débute dans le networking, dans le réseautage ?
C'est tout de suite de vouloir demander. Tu te demandes, mais qu'est-ce que tu donnes derrière ? En fait, tu es qui ? Qu'est-ce que tu proposes ? C'est bien beau de voir une personne, « Ah, fais ça, je veux ton contact. » Mais bon, en fait, je veux ton contact, mais derrière, qu'est-ce que tu apportes à ton réseau ? La première question que tu dois te poser, c'est de savoir qu'est-ce que toi, personnellement, tu apportes à ton réseau par rapport à ce que tu fais. Et moi, j'aime bien prendre les exemples parce que c'est précis. J'ai été rapidement, je pense qu'on n'a pas le temps. J'étais à un événement et il y avait une dame qui écrivait et qui faisait des dessins. Donc, elle arrivait à l'événement et elle avait un portfolio, par exemple. Donc, quand elle parlait, elle montrait en même temps. Et ça impressionne parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des gens qui viennent avec un travail sur une clé USB, plusieurs clés USB. Et elle vous donne ces clés USB pour dire « je fais ce travail » et elle vous montre sur sa tablette. Je pense que ça change la donne. Il faut toujours apporter de la valeur.
Moi, j'ai une histoire. Tu vas me dire si ça compte. Hein. J'ai un copain qui commençait la musique. En fait, il était au quartier, personne ne le regardait. Il a fait une chanson, il est passé dans mon émission. Le mec au quartier, il a changé de démarche et la fille du coin de la rue qui le regardait est venue lui dire bonjour, écoute, je voudrais ton numéro. Il lui a posé la question, mais qu'est-ce que tu m'apportes? Ça compte ou pas?
Après, ça dépend. Est-ce que c'est du networking? Mais tu sais, c'est une belle question. Non, mais en fait, c'est une belle question. Si tu veux, en fait, le networking, c'est d'abord développer une relation personnelle parce qu'on nous sommes des personnes. Et ensuite, une relation personnelle peut découler sur des opportunités ou sur des relations professionnelles. Parce qu'il ne faut pas oublier que le networking, c'est d'abord une relation de confiance. Donc, si moi, je n'ai pas confiance en toi, déjà, je ne te parle pas et donc on ne peut pas parler de projet.
Mais qu'est-ce que tu penses des réseaux inutilisables? Parce que ça existe. On a des personnes sur nos téléphones, des contacts qu'on ne peut utiliser. À quoi c'est dû selon toi?
En fait, t'es en train de dire que tu as des numéros dans ton téléphone.
Oui, que j'ai obtenu.
Ils occupent de l'espace dans ton téléphone, mais ça ne sert à rien.
C'est pour ça qu'il faut, lire le livre. En fait, parce que derrière,
alors que le gars,
faut acheter le livre.
Le gars, ce qu'il te dit, quand tu prends un numéro, ça doit te servir. Tu dois l'utiliser.
Le networking,
tu prends des numéros,
déjà, je parle à Stéphane. Je m'adresse à Stéphane.
Je pense qu'elle veut dire quelque chose. J'allais dire, enfin, je ne sais pas si je trahis la pensée, mais est-ce que, enfin, la limite peut-être elle est tellement fine, est-ce que ça, quelque part, enfin, je ne sais pas si je saurais m'exprimer, mais c'est comme si, si on se met en relation avec quelqu'un, forcément il faut attendre quelque chose, on n'est pas dans le marchand, enfin je ne vais pas dire marchandage, mais il y a aussi les relations qui se font naturellement. Par exemple, on se retrouve avec un numéro de téléphone dans son téléphone parce qu'on avait fait connaissance avec la personne. Après, si on s'est perdu de vue, ce n'est pas pour autant qu'on va dire chacun soit utile, quoi.
J'adore. Donc, il faut être authentique, c'est même pas utile.
Ça veut dire qu'on le met de côté. Alors moi, je trouve ça un peu.
C'est même pas l'utilité.
Je suis mal à l'aise avec cette.
C'est l'authenticité. Alors, c'est une belle remarque, j'adore.
Ce que moi j'entends, c'est la capitalisation de tout ce qu'on...
Exactement.
En fait, c'est l'authenticité. Écoute, on parle de networking, partage de valeurs, par exemple, moi j'arrive dans ce studio et cette dame, elle est bienveillante. Elle a partagé une valeur que j'épouse naturellement parce que dans son éducation, elle est bienveillante. Mais moi, je suis impressionné par cette bienveillance. Je prends son contact. Mais quand je prends son contact, je ne prends pas son contact pour peut-être développer un business. Mais je vois cette bienveillance qui est une valeur qui me parle. Oui. Et donc, on arrive naturellement à développer un réseau. Et ça, c'est l'authenticité.
C'est ça.
Voilà. Et en plus, ce que moi j'entends dans le réseautage, c'est en fait de pouvoir capitaliser toutes les relations qu'on a. En fait, on prend un numéro. C'est comme, tu vois, nous, quand on était jeunes, les garçons, quand ils sont jeunes, ils sortent... ils ont envie d'impressionner une fille. Au départ, écoutez, moi, j'allais l'impressionner. L'idée de départ, c'est d'aller impressionner cette personne. Mais arrivé là-bas, il découvre une autre personne qu'il envoie dans des sphères, dans ses réflexions, dans des échanges. Et du coup, il est accroché par un autre lien qu'il veut créer avec cette personne au lieu de la première idée qu'il avait en tête. Donc, peut-être qu'on va sortir du marchandage, mais plutôt de la capitalisation des relations qu'on a.
Mais tout à fait. Et quand on parlait, on a mon pari afro, et c'est l'erreur, hein, cette mentalité, cette manière de voir. Je pense que peut-être par l'éducation, on a toujours. On connaît énormément des personnes qui font de belles choses. Peut-être que vous, dans votre réseau, vous connaissez quelqu'un qui travaille chez un libraire. Mais vous n'échangez même pas de ça parce que vous vous basez sur le fait que derrière, on n'est pas censé se parler parce qu'on veut accéder à des opportunités. Mais si tu ne parles pas de ce que tu fais, la personne ne saura jamais comment te recommander à une personne. Et d'autres personnes ont très bien compris ce système.
C'est pour ça que j'ai les cartes de visite à vous partager tout à l'heure, bougez pas. On va faire un break encore une fois avec la musique afro qui marche très très bien en ce moment partout dans le monde entier. C'est de l'afropop, c'est avec Asake, une chanson que j'aime beaucoup. À tout à l'heure.
Consider lucky, my baby. Let's keep on jamming. This fire cannot cool down. Baby, damn it, it's not me.
body shalom, my baby. Alumala only go, ya Rabbi. Ilai oba to dami. O dami ton, body big money. My thighs, perfect size. Brother, my wine. Why don't you? Why don't you? Why don't you?
Happy Amaya. Okay, Jesse. Special one, my bestie. You know I'm a soldier boy,
but in your case I'll calm down.
Admire your confidence, they bust my head, take it easy.
One for the road, keep it steady. Two for my girl, big energy. Body magnetizing, fascinating. You light up the room, illuminating. Captain Vating, who can charge me? Such a bad bitch, body bad me. Keep it moving, or a body.
My thighs, perfect size. Brother, my wine.
Why don't you? Why don't you? Why don't you?
Happy Amaya. Okay, Jesse.
Afro Paris, votre émission afro sur Mon Paris FM.
Duval, super chaud à ce morceau. Tout le monde dans le studio a dansé, tout le monde a kiffé.
Tout le monde ou Duval?
Oui.
Tout le monde ou Duval?
Oh, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi. Même notre invité secret, Mystère qui est avec nous, il a bougé aussi. Hein. Le titre c'est Why Love, c'est Asake, retenez le titre.
Asake.
Pour retrouver Why Love, c'est le titre de la chanson. Mmh. Une belle chanson, hein. Moi je l'écoute, voilà, je suis assis sur mon balcon, les yeux fermés, petit livre à la main.
Ah,
je
ça,
voyage.
Ça, c'est bien. Petit livre à la main.
Il n'a pas dit petit verre, il a dit petit livre. Hein.
Voilà.
Wow. Moi, je lis beaucoup. Mon sac, tu l'ouvres, il n'y a que des livres dedans. Il y a les livres, je commence, je le pose, je commence un autre, je le pose. Je suis dans plusieurs livres en même temps. J'ai
découvert
plusieurs univers.
Infidèle en lecture.
Je voyage.
Et
c'est
mais c'est le voyage, comme tu as dit, c'est ça, c'est le voyage. Quand tu lis, bah ouais, tu t'offres un voyage à chaque livre, quoi. Donc c'est
et en plus, des personnes comme nous qui sont cartésiennes, qui sont dans la profondeur, on aime rester assis et traverser de multiples univers et faire bouger nos sens.
C'est ce qu'on a eu, dont on a eu droit ce soir.
Bah oui,
c'est ce que vous avez fait ce soir.
Et ce n'est pas fini, on a toujours nos invités avec nous, Stéphane, avec cette notion du networking, de la connexion. On a découvert davantage en fait, l'intérêt de la connexion. On lisait, hein, les relations, c'est très très important. Les relations, il faut les entretenir. Le networking, c'est vrai, il faut se faire un réseau. Mais il y a aussi l'entretien qu'il faut avoir derrière, Stéphane.
Tout à fait, c'est important. Une chose est d'avoir un réseau, c'est de l'entretenir par beaucoup de choses. Hein. Ça va être par des événements, ça va être par beaucoup de choses. Tout dépend de l'affinité que vous avez avec le réseau. Mais toujours autant que c'est important, lorsqu'on a un réseau, de savoir les passions ou ce que le contact en question fait. Mm-hmm. Montrer qu'on s'intéresse aussi au travail des uns et des autres. Et je pense que c'est tellement gratifiant de voir qu'on s'intéresse à son travail et par la suite, ça devient réciproque.
Mmh. Alors, en tant qu'Africain en France, as-tu remarqué des freins ou des spécificités dans le networking afro, dans l'espace francophone ?
Clairement. Clairement, parce qu'il y a un réel besoin justement d'éduquer, quand je parle d'éducation, par rapport à certaines notions. Mmh. En général, vous savez, l'afro a une très belle éducation. Ça, c'est un fait. Il faut avoir des limites aussi. Quand on ne connaît pas une personne par rapport à l'approche, si tu ne connais pas une personne, ça ne sert à rien d'être super familier avec cette personne. Parce que derrière, chacun a sa manière de fonctionner. Il faut apprendre à prendre le pouls, de voir aussi si cette personne est ouverte
à l'échange ou à la conversation et derrière surfer sur certaines valeurs que d'arriver avec une personne hey, comment tu vas, ça va, à toi je te connais, j'aime bien ce que tu fais. Non, il y a une certaine manière et ça s'apprend. Et le networking, justement, c'est en le pratiquant qu'on arrive à avoir les failles. Et voilà, rien n'est parfait, il faut juste le pratiquer. Ensuite, on a les aptitudes. Donc, ce que je conseillerais en fait aux afros, c'est de pouvoir s'adapter aux personnes qu'on rencontre et aussi rester authentique et naturel, mais tout en étant vraiment correct, en partageant des valeurs.
Ça revient
professionnel.
Au... Ouais, professionnalisme.
Professionnel, c'est ce que j'allais toujours. Dire. Professionnel.
On va rester dans cet élan, justement, entre la relation afro-France et tout. Vos parcours montrent tous les deux, hein, entre l'Afrique, un pont entre l'Afrique et la France, entre culture et contexte professionnel très différents. Comment ces allers-retours géographiques et symboliques influent-ils vos écritures en tant qu'auteur ?
Moi, je pense que ce qu'on écrit, ça, même sans l'avoir décidé, hein, nos écrits, pas trahissent ce que nous sommes, mais j'ai envie de dire, montre-moi ce que tu écris, je te dirai qui tu es. Et forcément, ce qu'on va écrire, ça sort de nos tripes, ça sort de soi. Donc moi, aujourd'hui, enfin, je ne vais pas me définir comme... on a des identités plurielles. Moi, je suis née à Brazzaville, au Congo. Donc je suis congolaise, mais je suis française aussi. Je me considère même un petit peu bulgare, vu que j'ai passé quelques années en Bulgarie. Alors, je ne parle plus autant couramment le bulgare qu'il y a 20-30 ans. Mais tout ça, c'est moi. Et donc, d'une manière ou d'une autre, lorsque j'écris, mes écrits se nourrissent de mes expériences. Et mes expériences, c'est aussi mes différents itinéraires, les différents lieux que j'ai visités, les différents endroits où j'ai vécu, les différentes rencontres que j'ai faites. Voilà.
Élise, dis-moi, est-ce qu'il y a tu te fixes des moments pour écrire ? Tu te dis là, de telle heure, je vais écrire ? Ou est-ce que ça devient comme ça spontanément et la nuit, enfin le soir, quand il y a une ambiance ?
Je saisis les moments. J'ai pas de calendrier fixe ou bien de planification. Enfin bon, la planification, il a fallu planifier un peu, notamment lorsque j'ai mené mes études qu'il faut vraiment rendre des chapitres directeurs de thèse. Donc là, il faut se donner un temps. Mais pour l'écriture, du point de vue littéraire, c'est vraiment je vole des heures, des moments quand il faut. J'ai pas vraiment de temps spécifique, mais le temps, parfois, il faut le créer. Sinon, c'est rien ne se fait.
Stéphane, j'allais revenir à toi, justement. Dans ton livre, tu parles de relations authentiques. Depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup d'authenticité. En plus, on l'a entendu. En lisant une œuvre littéraire comme celle de Liz Kindou, si tu ne l'as pas encore lu, tu as un peu compris des sujets qu'elle parle dans ces livres-là. Quel parallèle ferais-tu entre la sincérité dans les rapports humains et l'authenticité littéraire ?
Je m'apprêtais à répondre.
C'est pointu. C'est Duval.
C'est Duval.
Pour répondre à cette question, quand on parle de sincérité, d'abord, il faut savoir qui on est.
Oui.
Parce que si vous ne vous connaissez pas, vous ne pourrez jamais être sincère, en fait. Donc, c'est important de se connaître. Et on revient dans ce partage de valeurs. Elle a sorti une œuvre où elle partage des valeurs. Donc, elle a puisé au fond d'elle cette sincérité qui lui a permis de sortir cette œuvre pour partager aussi ce qu'elle ressent. Parce que c'est un partage d'énergie et de valeurs. Et en retour, je pense que si on veut être authentique, il faut partager ses valeurs et être sincère. Et je pense que de là, on pourra juger ou décider de ce qui est bien ou ce qui est important.
Tu veux parler du livre de Stéphane, justement, ton livre
Où c'est qu'on l'achète demain, alors ?
Ça y est, j'ai eu quelqu'un qui l'a acheté.
Le livre, il est disponible à la FNAC et sur Amazon et sur Edilivre. Et pour toutes les personnes qui seraient potentiellement intéressées également, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux, notamment sur Instagram. Donc, c'est StéphaneC.Z sur Instagram. Et puis, sur Facebook, c'est Stéphane Casanova. Sur LinkedIn, c'est Stéphane Zagbaï. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je fais des dédicaces également et des masterclass. Donc, je pense que là où je suis plus accessible, c'est Instagram, StéphaneC.Z Instagram. Et sur Amazon et la FNAC.
On est déjà dans l'identité multiple. Il y a Casanova, moi j'aurais bien voulu un petit.
Non, parce que Stéphane Egg, donc Stéphane mon prénom c'est Stéphane Casanova Zagbaï.
Ah d'accord, okay. Bon, très bien.
Ok, c'est en Casanova. Enfin, parce que je voulais dire, il s'appelle Casanova.
Oui.
Tu voulais poser une question
Vous êtes, excuse-moi Steve, vous êtes tous deux écrivains. Est-ce que vous avez encore cette peur de ne pas être lu? Et si oui, est-ce qu'elle influe votre écriture?
Eh bien, moi, là, justement, on tombe dans... On a beaucoup... le mot sincérité ou authenticité a beaucoup été employé. Pour moi, à partir du moment où on se dit, bon, bah, est-ce que je vais être lue ou pas, bah, ça veut dire qu'on fait déjà le choix d'orienter ses écrits ou ses publications en fonction de qu'est-ce qui va plus toucher le public ou pas.
On est d'accord. Alors, et là, il y a un manque de sincérité.
Calcul,
alors que tu es sincère, en fait, rappelle-nous.
Moi, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Il y a un thème, un sujet qui me tient à cœur. Je l'exploite. Voilà, j'en parle. Et puis après, bon, bah, avec le travail de marketing, etc., de networking, etc., peut-être que le livre peut toucher un large public. Mais si déjà je me dis, ah ben la peur de ne pas être lu, alors tel sujet, il est moins vendeur, etc., ben, on est déjà en train de faire des concessions. Pour moi,
Je rejoins complètement ce que tu dis, parce que tu as une idée dans un premier temps. Et moi, je me dis, il est important quand tu as une idée, tu la structures, j'allais pas écrire pour que ça reste dans mon placard. Faut que je partage. Mmh. Mais je partage parce que j'ai sorti un projet et que même s'il y a 2-3 personnes qui l'ont lu, moi déjà avoir des retours, et à chaque fois que je vends des livres ou je fais des dédicaces, je dis aux personnes, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ce que vous pensez. Ça me permet aussi derrière de pouvoir moduler moi, parce que j'en apprends aussi. J'ai sorti un livre, mais j'en apprends aussi sur mon livre parce que mes rencontres sont différentes et j'apprends des uns et du parcours des autres et c'est ce qui m'enrichit. C'est juste mon besoin. Donc, j'attends pas à ce qu'il y ait 10 000 personnes. Et par la grâce ou par tout ce qui se fait, j'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes. Et donc, ma communication a été vraiment ce que je dis dans mon livre, en fait, qui s'est fait naturellement.
Évolutive.
Alors, exactement. D'accord. Vous écrivez tous les deux pour donner des outils, en fait. Voilà. L'une pour penser le monde à travers la littérature et l'autre pour réussir dans le monde professionnel. Comment croyez-vous que vos livres peuvent dialoguer ensemble?
Ah, nos livres, oui, comment nos deux livres... Ben, je pense
deux
que...
univers.
Pour répondre à la question, dialoguer dans quel sens? Je pense que tous les courants littéraires arrivent, peuvent dialoguer ensemble, dans le sens où que je lis un livre X, A, B ou C, j'apprends. Donc en fait, on a toujours quelque chose à apprendre, en fait. Ça va être par exemple par sa plume, ça va être par rapport à je veux dire, quelques thématiques qu'elle aborde, ce qui va potentiellement m'impacter, parce que qu'on soit auteur ou non, on s'impacte par les choses du monde, ou on s'impacte par quelqu'un, ou on a été impacté par quelqu'un, et en retour, on impacte d'autres personnes. Mmh. Donc je pense que c'est un circuit, en fait. Donc
ouais, on a besoin de tout,
on a besoin pour de faire tout pour faire un monde.
Ouais. Les besoins sont différents, donc lui, il parle du monde professionnel. Bah, pour toute personne, il y a forcément la carrière ou bien l'activité professionnelle, elle est importante. Les loisirs, c'est important. Se construire, avoir des bases, tout ça, c'est important. Donc forcément, d'une manière ou d'une autre, en fait, on se complète parce qu'on va nourrir les besoins ou les appétits des différents lecteurs. Selon les moments, on peut... Mais même du point de vue littérature, il y a différents types d'œuvres.
Absolument. Voilà. Donc, j'aimerais vous rappeler que, pour ceux qui ne le savent pas, il y aura le festival Afrodome bientôt. On n'aura pas d'agenda Cynthia, donc je vous donne un événement important. Afrodome bientôt, ce sera les 7 et 8 juin prochains du côté de Paris-la-Villette. Hein. Il y aura pas mal d'artistes qui seront présents à cet événement-là, pas mal d'artistes afro qui seront là, dont celui que nous allons écouter maintenant en compagnie de Djangeli. Il s'agit de Singila et le titre de la chanson, c'est Tricheur. Allez, à tout à l'heure.
Vous suivez Mon Afro Paris sur Mon Paris FM.
Tu regrettes d'être avec elle, prends trop la tête. Elle frappe un long feu dans le célibat. Elle est fraîche, tous tes poteaux la guettent. Tu veux la sexy jolie qui ne te saoule pas. Mais qui t'a dit que l'amour d'une fille s'exprimait comme ça? On est des mâles, notre game est sale. Toi t'es là, tu likes des photos de go normal, elle râle. On est des mâles, notre game est sale. Toi t'es là, tu likes des photos de go normal, elle râle. Il y a des bars à maîtriser, on ne triche pas comme ça. Si tu sais pas, faut demander, on ne triche pas comme ça. Assieds-toi, je peux t'aiguiller, moi j'ai quelques katas qui reposent sur des petites femmes, mais les femmes raffolent de ça.
On ne triche pas comme ça. On ne triche pas comme ça. On ne triche pas comme ça. On ne triche pas comme ça. J'écoute tes conseils qu'après l'incendie. Elle m'a cramé en voyant le nombre de flammes que j'avais sur mon jeune avec l'autre fille. Je veux la sexy jolie qui ne me saoule pas. Je croyais que l'amour d'une fille s'obtenait comme ça. On est des mâles, notre game est sale. Mais je peux pas m'empêcher de liker des photos de go sur Insta. On est des mâles, notre game est sale. Mais je peux pas m'empêcher d'ajouter la première que je vois sur Snap. Il y a des bases à maîtriser, on ne triche pas comme ça. Si tu sais pas, faut demander, on ne triche pas comme ça. Assieds-toi, je peux t'aiguiller, moi j'ai quelques katas qui reposent sur des petites femmes, mais les femmes raffolent de ça. On ne triche pas comme ça, on ne triche pas comme ça. On ne triche pas comme ça, on ne triche pas comme ça.
Votre émission Afro sur Mon Paris FM.
Oui, je sais, il y a beaucoup de choses à dire avec nos invités, il y a beaucoup de sujets à aborder, mais hélas, le temps passe tellement, mais tellement vite qu'on en est triste et frustré parfois. C'est le cas ce soir encore avec les invités et tous les sujets qu'on voulait aborder et tout. En tout cas, Lys, c'est quoi ton actualité en ce moment ?
Alors, en ce moment, je me fais plaisir avec deux amis auteurs pendant lorsqu'il y a eu le printemps des poètes. Donc, Frédéric Ganga, avec lequel j'ai coordonné une anthologie de poésie multilingue, a eu une idée. Il s'est dit, ben, pourquoi est-ce qu'on pourrait, on tenterait pas cette expérience d'écrire un poème à plusieurs mains. Donc, chacun de nous commence un poème, le deuxième continue, c'est le bien, troisième ça. Termine. Oui. Et donc, ça a commencé comme un jeu. Et puis, on se dit, mais c'est trop bien. Ça nous fait tellement plaisir que nous avons décidé de poursuivre l'expérience. Et là, nous sommes à plus d'une quinzaine de poèmes, de textes déjà. Et on aimerait en avoir, pourquoi pas, une trentaine et le publier.
Si, donc, là, il a des poésies en stock. Que ce soit son tour, il va en rajouter.
Le réseau, les amis.
Voilà. Super. Sinon, j'ai retravaillé donc ma thèse et actuellement, je suis en phase envoi aux éditeurs pour que ce travail soit mis à disposition du public.
Merci beaucoup d'être venu. Alors, tes réseaux sociaux, merci Instagram,
C'est Lys Kihindou, tout simplement.
Merci d'être venu, Lys. On a eu beaucoup de plaisir.
En tout cas, merci pour l'invitation. Ça a été un super moment.
C'était un plaisir.
Avec un dynamisme fou, une joie sans partage. Donc, c'est un plaisir d'avoir été accueilli sur ce plateau.
Le plaisir, il est partagé. Stéphane, et toi, du coup, ton actualité ?
Des actualités, j'ai une micro-agence de conseil en stratégie de communication marketing. Je fais des masterclass également avec des concepts justement autour de la communication et du networking, parce que le networking est une forme de communication. Et je suis également dans les médias où parfois je suis, indépendant. Et donc j'arrive à jauger justement cela. Et là, bientôt, dans quelques mois, je vais sortir une deuxième œuvre.
Très bien, on te retrouve aussi sur Instagram.
Exactement, stéphanec.z.
Très bien. Merci d'être venu, on a eu beaucoup de plaisir, c'était très enrichissant. Merci pour tout ce que tu nous as donné comme information.
Je vous en prie.
Ça y est, on est devenus des nectorockers grâce à toi. On est en connexion là maintenant. Fatih, merci beaucoup. Steve, merci à toi.
C'est toujours un plaisir.
Et puis notre invité mystère et son invité, Anthony, merci d'être là avec nous, ça nous a fait plaisir. Merci au réalisateur Jason pour le travail abattu. Et Léo qui est dans les parages aussi. On se dit à la semaine prochaine les amis. Et puis on a une pensée pour Cynthia qui a un reportage envoyé spécial à Abidjan pour le Salon du Livre International. Du coup, on va se séparer avec une chanson pour faire plaisir à Fatih, une chanson de Kérosène Didier. Le titre c'est son temps, c'est le dernier. Allez, à la semaine prochaine, salut, bon week-end.
Mon Paris est fait.